Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h ici à Paris.
Anne Contenaire.
RFI Midi, suite et fin sur le continent américain jusqu'à 13h30 en temps universel. Reportage dans quelques minutes dans le sud du Brésil, toujours en partie inondé. Et la polémique enfle sur le manque de préparation et d'anticipation des risques, vous l'entendrez. On parlera aussi de la décision du président argentin de suspendre les médias publics. Tous leurs sites internet sont inaccessibles aujourd'hui. On vous emmènera à New York, ensuite dans une église particulière et chère aux Haïtiens. Et puis en Martinique, avec vous, Benoît Ferrand, tout à l'heure. La Martinique qui commémore l'abolition de l'esclavage.
176e anniversaire avec notre confrère Ronan Bonnec. Nous parlerons tout à l'heure d'un cimetière d'esclaves redécouvert il y a 30 ans, mais malheureusement depuis laissé à l'abandon.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et avant de développer tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Charlotte Hidrac.
Bonjour.
Avec ce signal politique fort, d'abord, 3 pays européens vont reconnaître l'État de Palestine.
Oui, à compter du 28 mai, donc là la semaine prochaine, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne l'ont annoncé coup sur coup ce matin en pleine offensive israélienne à Gaza, Julien Chavanne.
Cela fait des mois que Pedro Sanchez tente de convaincre ses voisins européens de reconnaître l'État palestinien. Le Premier ministre espagnol a été à l'initiative de cette annonce concertée.
Et pour arriver à cette solution des deux États,
pour parvenir à cette solution à deux États, il faut que les deux parties s'assoient pour négocier sur un pied d'égalité avec la même légitimité. C'est pourquoi nous reconnaîtrons l'État de Palestine, pour que le moment venu, l'État de Palestine ait aussi le même statut que le gouvernement israélien et puisse ainsi renforcer le pouvoir de la future autorité palestinienne face au Hamas, groupe terroriste qui doit évidemment disparaître si nous voulons la paix.
Stable et duradera. Israël a immédiatement rappelé ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Oslo, Dublin et Madrid veulent envoyer un message aux Palestiniens et au monde. Le terrorisme paie, a réagi le chef de la diplomatie israélienne. De l'autre côté, l'Organisation de libération de la Palestine se réjouit d'un moment historique quand le Hamas parle, lui, d'une étape importante. Même si ces annonces restent pour l'instant symboliques, la Slovénie, Malte ou encore l'Australie pourraient-elles aussi reconnaître bientôt l'État palestinien? Pour la France, la question n'est pas taboue, mais ce n'est pas le bon moment, estime le ministre français des Affaires étrangères.
Julien Chavanne, relations diplomatiques tendues donc entre l'Espagne et Israël avec cette initiative, et de plus en plus tendues entre l'Espagne et l'Argentine cette fois. C'est l'escalade après les propos du président argentin Javier Milei sur l'épouse du premier ministre espagnol qu'il a accusé d'être corrompue. Conséquence, Madrid retire son ambassadrice à Buenos Aires. Décision absurde, a répondu Javier Milei. Bref, c'est un dialogue de sourds.
Le président argentin qui continue par ailleurs, Charlotte, ses attaques contre les médias publics.
Oui, après avoir fermé l'agence de presse nationale Telam quasiment du jour au lendemain, au mois de mars, Javier Milei s'en prend à présent à l'audiovisuel public. Théo Conscience, on vous retrouve en direct de Buenos Aires. Alors depuis hier, les sites web et les réseaux sociaux de la télévision et de la radio publique sont suspendus et sont donc inaccessibles.
Oui, Charlotte, quand on tente d'y accéder, on se heurte directement à un message indiquant que ces sites sont en reconstruction. Dans un communiqué, le gouvernement de Javier Milei a expliqué que les canaux de communication des médias publics étaient suspendus, le temps, je cite, d'un processus de réorganisation. La Fédération argentine des travailleurs de la presse a immédiatement dénoncé un bâillonnement de l'audiovisuel public qui s'inscrit dans le processus plus large de démantèlement initié par Javier Milei depuis son arrivée au pouvoir. Considérant que les médias publics étaient devenus des organes de propagande, le président ultralibéral a commencé par couper les financements publicitaires officiels. Il a ensuite fermé début mars l'historique agence de presse nationale Telam, vous l'avez dit, et il a enfin présenté un projet de loi actuellement examiné par les sénateurs qui doit permettre la privatisation de la télévision et de la radio publique. Ces mesures et les attaques répétées du chef de l'État argentin à l'encontre de journalistes ont fait dégringoler l'Argentine de 26 places dans le classement annuel de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières début mai, l'ONG allant même jusqu'à désigner Javier Milei comme l'un des prédateurs revendiqués de la liberté de la presse.
Théo Conscience, merci à vous en direct de Buenos Aires. Près de 17 000 km à vol d'oiseau, Emmanuel Macron est dans l'avion direction la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État, très attendu après une dizaine de jours de violentes émeutes, sur fond, vous le savez, de réformes qui prévoient d'élargir le corps électoral. Et dans ce contexte, la Nouvelle-Calédonie a été ciblée par une cyberattaque d'une force inédite selon les autorités locales. Concrètement, des millions de courriels ont été envoyés de manière simultanée pour saturer le réseau, attaque qui a depuis été stoppée.
C'est confirmé au Vietnam, le désormais ex-ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, est le nouveau président.
Choix du Parti communiste approuvé par les députés. Cela fait suite à la démission de son prédécesseur emporté par une vaste purge anticorruption. Un choix donc à la quasi-unanimité, Cléa Broederst. À bulletin secret, 472 députés ont voté pour sur 473.
Tô Lâm a passé toute sa carrière au sein du ministère très secret de la sécurité publique qui s'occupe du contrôle de la dissidence. C'est lui qui a supervisé les opérations de police et de renseignement de manière particulièrement stricte. Les groupes de défense des droits affirment que les libertés fondamentales ont systématiquement été supprimées. Les services secrets ont été accusés de violer le droit international à plusieurs reprises. Sous la direction de Lâm, la société civile a été soumise à de nouvelles restrictions. Le pays a emprisonné des défenseurs du climat et des lois ont été introduites pour censurer les médias sociaux. Tô Lâm a instrumentalisé les enquêtes anticorruption et quasiment systématiquement éliminé les rivaux de bureaux politiques qui étaient éligibles pour devenir secrétaire général du Parti communiste vietnamien. En 2021, pendant l'épidémie du Covid-19, une vidéo a fait surface montrant le chef turc Nusret Goce, plus connu sous le nom de Salt Bay, en train de donner à Tô Lâm un steak recouvert de feuilles d'or à Londres. Malgré les efforts déployés pour la censurer, la vidéo est devenue virale et elle a fait scandale au Vietnam où le revenu moyen est de quelques dollars. Par jour.
Cléa Broederst, la réponse de la Chine à ce qu'elle qualifie de coercition économique des États-Unis, alors que Washington a ciblé des entreprises chinoises accusées de soutenir l'effort de guerre russe, eh bien Pékin annonce à son tour des sanctions contre 12 entreprises américaines et accuse de nouveau les États-Unis de vendre des armes à Taïwan.
Au Mexique, c'est un phénomène inhabituel qui alerte les vétérinaires et les populations locales.
Oui, des dizaines de singes ont été retrouvés morts et d'autres très affaiblis par la vague de chaleur qui déferle sur le sud-est du pays avec des températures dépassant les 41 degrés. Mais d'autres causes ne sont pas exclues, Raphaël Morand.
Des singes tombés des arbres sous l'effet de la chaleur extrême, voilà la scène que décrit le biologiste mexicain Gilberto Pozo de l'État de Tabasco. Frappé par des températures de plus de 41 degrés depuis le début du mois de mai, les vagues de chaleur ont causé la mort d'au moins 100 primates dans le sud-est du Mexique. Il s'agit de singes saraguato, également appelés singes hurleurs, en raison de leur cri caractéristique qui peut être entendu à plusieurs kilomètres. Les singes araignées sont aussi touchés, ainsi que des oiseaux et des reptiles. Plusieurs zoos et cliniques vétérinaires se sont mobilisés pour secourir les animaux en détresse, avec de l'eau, des fruits, voire des perfusions. Beaucoup présentaient des températures corporelles anormalement élevées, des symptômes de déshydratation et des infections pour certains. Les autorités mexicaines n'excluent pas d'autres causes comme l'épandage de produits agricoles toxiques. Les populations de singes font également face à la déforestation illégale qui réduit leur habitat.
Et puis c'est une conséquence des récentes inondations au Brésil. La production de riz a été affectée, notamment dans le sud du pays. Et le gouvernement a supprimé les taxes d'importation sur 3 variétés de riz, mesure temporaire jusqu'à la fin de l'année. L'objectif, c'est d'éviter une hausse des prix de ce produit de base très courant, très prisé dans les assiettes des Brésiliens.
Merci Charlotte Idrac et à tout à l'heure. Il est 15h09 à Paris et durant les 20 prochaines minutes, nous parlons de l'actualité sur le continent américain, des sinistrés au Brésil, de l'attaque du président argentin contre les médias publics et nous irons aussi dans une église de New York où le pasteur se mobilise pour accueillir les Haïtiens exilés.
RFI Midi.
Et on prend d'abord la direction du Brésil, où la situation est toujours critique. Une partie du sud du pays est inondée, même si la décrue a commencé. Et aujourd'hui, une information fait la une de la presse que vous avez lue pour nous, Achim Lippold. On aurait peut-être pu éviter les près de 160 morts et les dizaines de milliers de déplacés.
Oui, c'est à la une du journal Folha de São Paulo. Selon ce quotidien, la mairie de Porto Alegre a été avertie il y a 6 ans du risque de défaillance du système de contrôle des inondations. Le journal a eu accès à un rapport écrit en 2018 par 2 fonctionnaires ingénieurs de la ville de Porto Alegre et Il pointait des défaillances dans le système mis en place pour prévenir les inondations, des défaillances qui concernaient notamment deux stations de pompage.
Ces révélations donc sont d'autant plus choquantes que la région vit la pire tragédie climatique de son histoire. 2,5 millions de personnes affectées dans le sud du Brésil. Les pluies torrentielles et les inondations ont causé la mort de 157 personnes, sans doute bien plus, car on déplore encore 88 disparus. Et donc, des centaines de milliers ont dû être évacués. 3 semaines après le début de ces intempéries hors normes, l'état du Rio Grande do Sul est toujours partiellement sous l'eau. Et les scientifiques rappellent, comme la presse, on le disait, que les dégâts auraient pu être beaucoup moins lourds si les risques avaient été pris au sérieux. Sur place, le reportage de notre correspondante, Sarah Cozzolino.
Dans le centre historique de Porto Alegre, le marché municipal est devenu le symbole de la gravité des inondations. Nous y accédons en bateau avec Adriana Kauer. Elle tient un commerce depuis 40 ans dans ce bâtiment historique. Aujourd'hui, sa boutique est entièrement sous l'eau. L'année dernière, au mois de septembre, nous avons déjà subi de graves inondations. L'eau est arrivée jusqu'au mur, qui a réussi à la contenir. C'est la raison pour laquelle on espérait à nouveau que le mur fasse ce travail. Et beaucoup de commerçants n'imaginaient pas que l'eau pouvait arriver jusqu'ici.
Ce mur de contention date des années 1970. La jetée de Mahua fait partie de tout un dispositif de protection de la zone urbanisée de Porto Alegre. Il comprend 65 km de digues, 14 vannes et 22 stations de pompage des eaux fluviales. Mais la défaillance d'une vanne a provoqué la mise à l'arrêt de plusieurs pompes. En quelques heures, l'eau a envahi le restaurant de Nedi Pio Vesani.
Personne n'imaginait que l'eau monterait autant. La ville était déjà inondée depuis vendredi ou samedi. Mais ici, nous n'étions pas inondés parce que les pompes fonctionnaient. Mais quand elles se sont arrêtées, le lundi, l'eau est montée. On avait passé la journée à surélever nos marchandises à 30 cm du sol, mais l'eau est montée à 1,70 m.
Le manque d'entretien du système de protection a aggravé la situation. Les habitants de Porto Alegre avaient un faux sentiment de sécurité, selon Bruna Martello.
Je suis très en colère contre la gestion actuelle, parce que tout ce qu'il se passe est de leur faute. Je ne pense pas à partir du quartier, car ça pourrait arriver à nouveau. Je suis beaucoup plus préoccupée par la responsabilité des autorités. J'ai besoin d'exprimer cette colère.
Cette année, les Brésiliens voteront lors des élections municipales. Porto Alegre, capitale de la région du Rio Grande do Sul, est la ville qui a le moins investi dans la prévention de ce genre de catastrophe et celle qui a été le plus affectée. Aujourd'hui, son maire, Sébastien Melo, parle de reconstruire entièrement le système de protection. José Pereira habite un quartier populaire dans le nord de la ville. Avec ses voisins, ils se sont organisés seuls pour sauver les habitants et assurer la sécurité. Alors que la panne d'électricité dans sa rue dure depuis plus d'une semaine, il ne croit plus en la politique.
Au Brésil, nous avons un gros problème de mémoire. En 6 mois, 1 an, on oublie tout. On pense que ça n'arrivera plus jamais. La dernière inondation équivalente, c'était en 1941. Mais c'est comme si les autorités essayaient de changer les pneus de la voiture alors qu'elle est en marche. Elles veulent résoudre les problèmes immédiatement, sauf que ça ne peut pas se passer comme ça.
Malgré les avertissements des scientifiques, l'urbanisation a continué à se développer dans des zones humides, proches des cours d'eau. Une attitude de négation face au changement climatique, selon Marcelo Dutra, professeur d'écologie à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul.
Ni les villes ni la région n'ont accordé au changement climatique l'importance qu'il mérite. Ça a toujours été vu comme un thème qui a inquiété des personnes qui ne voyaient pas d'un bon œil les investissements et le développement économique des villes.
Dans la région, près de 600 000 habitants ont dû fuir leur logement. Les autorités ont annoncé la mise en place de villes provisoires. C'est la première fois que le Brésil parle de déplacés climatiques, selon le chercheur.
Il est évident que d'autres événements de ce type se produiront. Et si nous ne nous préparons pas dès à présent en investissant davantage dans la prévention et en adaptant nos villes, nous en subirons les terribles conséquences dans un futur proche.
Et l'adaptation devra notamment se faire en déplaçant les quartiers résidentiels des zones à risque, selon le scientifique. Une reconstruction sur le long terme qui pourrait s'étendre sur les 15 prochaines années, selon lui. Sarah Cozzolino, Porto Alegre, RFI.
Reportage donc de notre correspondante au Brésil. Toujours à propos de ces inondations dramatiques, la presse brésilienne Achim Lippold rappelle aussi que les opérations de sauvetage ont permis de secourir plus de 12 000 animaux.
Oui, des chiens, des chats, pardon, des vaches ou encore des chevaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image du cheval réfugié sur le toit d'une maison près de Porto Alegre, effectivement, et qui a été sauvé aussi par un hélicoptère. Effectivement, beaucoup d'animaux domestiques ont pu être sauvés. Le journal Au Globo explique d'ailleurs comment les sauveteurs ont été briefés par les vétérinaires sur les spécificités des différents animaux et les précautions à prendre lors des opérations de sauvetage.
RFI Midi. Nous sommes à 11 jours des élections au Mexique, scrutin présidentiel, parlementaire et local sous haute tension. Les violences sont quotidiennes, plusieurs candidats locaux ont déjà été pris pour cible, voire tués. Et le président sortant assure que tout sera fait pour garantir la sécurité le 2 juin. Écoutez.
Et se va à seguir appuyando para que
Le président mexicain parle de soutien continu pour que la sécurité et la liberté soient totales avant, pendant et après le processus électoral. La sécurité à Achim Lippold, c'est vraiment l'un des grands enjeux de ces élections.
Effectivement, et on apprend par le site d'information animale Politico que plus de 27 000 agents de la garde nationale seront mobilisés pour veiller à la sécurité des élections présidentielles, législatives et locales. Rappelons que plus de 30 candidats et candidates ont été déjà assassinés depuis le début de la campagne. On vient d'entendre le président AMLO sur l'aspect de la sécurité. Alors la presse, Anne, lui reproche d'utiliser son mandat et ses conférences de presse matinales quotidiennes pour faire campagne en faveur de sa dauphine et grande favorite à la présidence, Claudia Sheinbaum. Depuis le début du mois de mai, il a évoqué presque tous les jours les élections, ce qui pourrait, selon le journal El Universal, constituer une violation de la loi électorale. Le président sortant a, entre autres, vanté ses propres programmes sociaux mis en place et qualifié l'opposition de, je cite, « mafia du pouvoir », selon El Universal.
L'insécurité, sujet majeur également en Équateur. Depuis le mois de janvier, le pays est confronté à des affrontements en série entre l'armée et différents groupes liés au trafic de drogue. En janvier, la situation était telle que le président avait déclaré l'état d'urgence. Mais aujourd'hui, l'organisation Human Rights Watch lui demande de revenir sur cette mesure. Elle est jugée inefficace par Juan Papier, directeur adjoint de la division Amérique de l'organisation, qui dénonce des violations des droits de l'homme de la part des forces de sécurité.
These are mostly young men.
Les victimes sont en général des hommes jeunes qui sont détenus dans l'ensemble du pays. Beaucoup sont retenus pendant quelques heures. Ils subissent des mauvais traitements, sont parfois torturés, maltraités avant d'être libérés. Ou bien ils sont poursuivis sur le plan pénal, parfois accusés de terrorisme, avec très peu de preuves démontrant leur implication. Nous pensons que l'Équateur a besoin d'une politique sécuritaire ferme, efficace et qui respecte les droits de l'homme pour répondre aux inquiétudes réelles du peuple équatorien quant aux extorsions ou aux violences commises par ces gangs criminels qui opèrent en Équateur. Le président Noboa doit abroger cet état d'urgence et cette annonce d'un conflit armé interne. À la place, il doit renforcer les institutions judiciaires afin que la police et la justice aient plus de pouvoir pour démanteler ces groupes criminels.
Le directeur adjoint de la division Amérique de l'ONG Human Rights Watch, des propos recueillis par Marin Paulet. Ça n'est pas vraiment une surprise venant du président argentin, mais c'est quand même un choc. Javier Milei, qui veut privatiser les médias publics, a décidé de suspendre tous les sites web et les publications sur les réseaux sociaux de ces médias. Achim Lippold, la presse publique n'est pas accessible aujourd'hui.
Exactement, je viens de faire le test, comme tout à l'heure d'ailleurs notre correspondant Théo Conscience. Effectivement, quand on clique sur le site de la Radio Nationale, par exemple, on tombe sur ce message, gros message, site en reconstruction. Officiellement, il est question de réorganisation et de restructuration des médias pour unifier les critères de distribution. Alors le quotidien Parinador dénonce une censure de la part du gouvernement qui restreint l'accès des citoyens à l'information. C'est une nouvelle démonstration de mépris démocratique, de cruauté et de provocation. Poursuit Parkinados, et le journal rappelle aussi que l'expression « processus de réorganisation » utilisée par le gouvernement a été aussi utilisée par la dictature argentine en vue de dissimuler son plan systématique d'enlèvement et d'extermination d'opposants.
La revue de presse, Achim Lipold. On continue à en parler, on va prendre la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Alors que l'on attend l'arrivée du premier contingent de policiers kényans pour diriger la mission multinationale de sécurité, les gangs qu'ils sont censés combattre se trouvent en position de force.
C'est la conclusion, en tout cas, Anne, d'un article du New York Times sur la menace que représentent les gangs pour la force multinationale. Certains extraits de l'article sont repris et cités dans la presse haïtienne. Gazette Haïti, par exemple, cite le passage selon lequel l'ancien président haïtien Michel Martelly aurait tenté d'influer la composition du futur gouvernement et serait en faveur d'une amnistie pour les gangs. Information que Michel Martelly a démenti.
Cette situation, en tout cas, elle préoccupe beaucoup et notamment la diaspora. Exemple à New York, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondante Emma Garbou. Elle s'est rendue dans une église qui est très fréquentée par les Haïtiens expatriés, la French Speaking Baptist Church.
Seigneur, notre pays Haïti est devant toi. Ce pays qui a tant souffert pendant des décennies, Haïti.
Chaque dimanche, le pasteur Schiller Saint-Victor parle de la situation en Haïti pendant son prêche.
Nous écoutons les nouvelles, nous voyons ce qui se passe, Seigneur, dans tout le pays.
C'est un moment important pour la communauté haïtienne réunie dans l'église, qui est toujours suivie d'une longue prière.
Le thème ce matin, c'est la réalité de la vie, the reality of life.
Dans la French Speaking Baptist Church, le service est à la fois en anglais, en français et en créole haïtien. Le pasteur Schiller Saint-Victor est polyglotte et il veut pouvoir s'adresser à tous les fidèles, qu'ils soient nés aux États-Unis ou qu'ils viennent d'arriver dans le pays.
Dans ce pays, il y a cette tendance polyculturelle. Nous sommes venus d'Haïti, nous avons notre culture et cette culture s'arrange avec la culture américaine. Les gens qui viennent d'Haïti sont à la recherche de mieux-être, d'une vie meilleure. Oui, l'American Dream, oui, tout le monde court après l'American Dream.
Des mots qui résonnent avec l'histoire de Maya, américaine d'origine haïtienne.
Oh yes, and Haiti is not in a good condition right now. So I guess the escape is what they're looking for a better life for their kids, because I guess when they're there, they can't really see a future for them. My grandma came here, my mother became a doctor, I'm in school, my sister's in school. So yeah, I think it worked out. I think because of her sacrifice, we were able, all of us, like the rest of her lineage, is able to live a good life.
Mais pour les nouveaux arrivants, les premiers pas dans le quotidien américain sont durs. Au choc du déracinement s'ajoutent des difficultés financières ou de logement. La jeune Diony est arrivée à New York il y a 4 mois.
La vie à New York peut présenter plusieurs défis. Tout d'abord, il y a la barrière linguistique. Cela peut rendre la communication difficile dans tous les aspects de la vie quotidienne. L'emploi, trouver un emploi décent peut être un défi, surtout si on n'a pas de qualification spécifique. Pas seulement pour nous les Haïtiens, mais nous les réfugiés. Cependant, malgré tout, à New York, on trouve un soutien dans les communautés haïtiennes établies.
Diony participe notamment à des cours d'anglais proposés gratuitement par les fidèles de la French Speaking Baptist Church, une organisation bien rodée par le pasteur Schiller Saint-Victor.
Notre objectif, c'est de les orienter dans ce pays. Et nous essayons de créer un réseau pour qu'ils puissent trouver un boulot, un travail. Si quelqu'un à l'église a besoin de quelqu'un, aurait besoin de quelqu'un, tout ce que cette personne a à faire, c'est de nous appeler et nous essayons d'établir le lien.
Face à la dégradation de la situation en Haïti et l'appel d'air suscité par le programme d'arrivée mis en place par l'administration Biden, la French Speaking Baptist Church se dit prête à accueillir de plus en plus de monde.
Reportage de notre correspondante à New York, Emma Garbou.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer à présent, on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, qui commémore aujourd'hui le 176e anniversaire de l'abolition de l'esclavage.
Eh oui, en Guadeloupe, ce sera lundi prochain, 27 mai. Alors, comme chaque année, cette journée de commémoration, c'est l'occasion de mettre en lumière des lieux de mémoire, comme par exemple ce cimetière d'esclaves à Font-Saint-Jacques, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Cimetière découvert il y a une trentaine d'années et pourtant depuis laissé à l'abandon. Reportage Renan Bonnec.
C'est peut-être temps qu'on pense à tous ces gens qui ont été enterrés sans aucune dignité, sans rien du tout. Qu'on fasse un cimetière digne de ce nom.
Josette se souvient de son enfance dans ce quartier de Font-Saint-Jacques.
En juin, mes cousins et moi-même, nous avons trouvé des ossements sous le manguier tout autour. Parce que j'ai une tante qui habitait là.
Avant sa découverte officielle en 1993, lors de la réfection de la route départementale, les habitants du quartier connaissaient déjà l'existence de ce cimetière d'Africains esclavisés. Mais aujourd'hui, la mémoire collective tend à disparaître, comme nous le dit Madly, la nièce de Josette.
En fait, c'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y avait un cimetière d'esclaves tout près en fait, de chez ma grand-mère. Et je me dis qu'en cette période, c'est le 22 mai quand même, ça aurait pu être commémoré et que ça soit mis en lumière.
Jeunes et moins jeunes semblent ici peu informés d'un lieu chargé d'histoire actuellement laissé à l'abandon, mais qui reste pourtant le premier cimetière découvert dans les Petites Antilles où se trouvent nos ancêtres africains déportés et esclavisés dans la plantation coloniale.
En Martinique, aujourd'hui, bien sûr, il y aura des spectacles et des opérations dans toutes les communes, ou presque, opération 1000 tambours, marche mémorielle, retraite au flambeau, défilé de la mémoire et autres représentations théâtrales. On passe à un tout autre sujet. À une semaine du coup d'envoi, entre guillemets, de la saison cyclonique 2024, une chaîne américaine spécialisée dans la prévision météo se montre, hélas, plus que jamais pessimiste. Sébastien Gilles, la première Guadeloupe.
The Weather Channel table sur 25 tempêtes tropicales sur l'ensemble de la saison. Un peu moins de la moitié, 12 précisément, devraient entrer dans la catégorie ouragan et 7 dans celle d'ouragan majeur, c'est-à-dire à 3 et au-delà sur l'échelle de Saffir-Simpson. Une réévaluation essentiellement étayée par deux facteurs. Le retour du phénomène La Niña au cœur de la saison qui induit des températures de surface du Pacifique plutôt froides et qui entraîne une homogénéisation des vents sur le bassin atlantique. L'autre facteur est constitué par l'anomalie des températures de surface sur ce même bassin, particulièrement chaude en ce mois de mai. Pour bien comprendre, l'actuel contenu thermique du bassin atlantique, enregistré le 15 mai dernier, est équivalent à ceux généralement constatés en août. En d'autres termes, nous avons près de 2 mois et demi d'avance sur le calendrier. Les services de Météo France, de leur côté, ont également dévoilé leur estimation. 23 systèmes cycloniques nommés, dont 12 suffisamment puissants pour être considérés comme des ouragans, sans préciser le nombre de majeurs.
Bon après-midi, Anne. À bientôt.
À bientôt, Benoît Ferrand. Et bonne journée. Merci à tous d'être avec nous. De la musique avant de se quitter. Voici The Salmon, The Kaidus Eye, Baz Baz et Cheeky P.
RFI Midi.
Been through many, many stages. From a seed planted in the womb, mankind has lived, graduating to life, to live throughout the cycle of life. Modernization has won in its spell, yeah. What you gonna do? Get out. How you gonna know the right roads of life if you don't learn by what is right? You see the salmon fighting to reach its heaven, to replenish itself, see life spring out, the cyclist reborn. Circles reborn. You need to be in tune. Life has addictions, carrying certain problems. You've got to face them. Don't hide yourself from the problems. Face them. Yes, we can solve them. Together we can solve them.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi avec la musique de Kiddus Eye, Baz Baz et Chikipi. Voici leur titre de Salmon. Vous restez sur RFI. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix. On va parler théâtre, le conte des contes et le cabaret merveilleux d'Omar Porras.
Through the cycle of life.